If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Minute Papillon.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, fausses informations versus institutions scientifiques. Comment un combat d'influence se joue au quotidien en temps de pandémie ? Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, vous l'avez sûrement remarqué, les fausses informations scientifiques pullulent sur les réseaux sociaux comme Facebook ou encore les vidéos sur YouTube ou via les messageries WhatsApp ou Telegram, comme allez, par exemple les meilleurs remèdes à la Covid à base de fenouil, de citron ou de cocaïne. Vous vous souvenez, on en avait parlé dans Minute Papillon. Le phénomène de ces fausses informations est mondial, il se joue des langues, des frontières, des différences culturelles et propose souvent des théories complotistes. Face à ces informations parfois tronquées, parfois vraies, partiellement, parfois totalement tirées par les cheveux, il y a les institutions scientifiques. En période de crise sanitaire, leur mobilisation est encore plus forte que d'habitude. Leur but, proposer au grand public une information claire, vérifiée, faire entrer ce public dans un univers qui est parfois compliqué à appréhender, mais aussi communiquer sur leurs doutes et aussi leur manque de connaissances. Les journalistes Aymeric Le Gall, Mathilde Cousin ont enquêté sur ce combat d'influence quotidien entre les propagateurs de fausses infos et les institutions scientifiques en période de pandémie. Aymeric, vous avez notamment enquêté à partir d'une vidéo qui a fait grand bruit à l'Institut Pasteur mi-mars.
Le 18 mars au matin, en arrivant à travailler, tous les scientifiques ont découvert un peu, complètement interloqué, une vidéo circulait à leur sujet, qui est une vidéo dans laquelle on expliquait que l'Institut Pasteur avait créé le Covid-19 de toutes pièces, avait déposé un brevet dessus en 2004. Donc là, ça a été, autant vous dire, la panique totale dans les bureaux, parce que face à cette fake news, cette fausse information, il a fallu réagir vite, d'autant que on a contacté Jean-François Chambon, directeur de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur, et il nous a raconté que la vidéo était sortie la nuit précédente et qu'en arrivant le matin, elle avait déjà été vue des centaines de milliers de fois, quoi. Donc il était vraiment surpris de la vitesse à laquelle la vidéo s'était propagée sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce qu'a fait l'Institut Pasteur pour répondre à cette vidéo qui était fausse ?
Branle-bas de combat, quoi. Ils ont mis toutes les équipes sur le dossier. Le but était vraiment de pondre un démenti clair et fourni, et puis très très rapide surtout, parce qu'on connaît la célérité des fake news sur les réseaux sociaux. Et donc les scientifiques se doivent maintenant de répondre avec la même vitesse, quoi. Toutes les équipes de com de l'Institut Pasteur ont passé la journée là-dessus. Ils ont aussi dû aller embêter des scientifiques qui planchaient sur le Covid-19. Pour leur demander de leur fournir des preuves, des données, des datas. À l'arrivée, c'est autant de temps perdu qu'ils n'ont pas pu passer à travailler sur le virus en lui-même, quoi. Très rapidement, ils ont publié un démenti officiel, un peu à la manière des papiers qu'on fait nous au service fact-checking à 20 minutes. C'était intitulé « Non, le coronavirus n'a pas été créé en laboratoire ». Ça a été publié sur le site de l'Institut, relayé sur leurs réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et ils ont carrément été jusqu'à tourner une vidéo avec l'ancien directeur scientifique de Pasteur, un peu pour répondre par les mêmes armes que les propagateurs de fake news et donner un démenti clair à cette infox.
Alors, est-ce que ça a fonctionné ou pas ?
A priori, ce que nous racontait Jean-François Chambon, c'est que oui, très rapidement, il a vu que dans la journée, les commentaires qui le matin étaient scandalisés ou très « comment ça, l'Institut Pasteur a créé un virus, c'est honteux », très vite, après les démentis, après les preuves apportées par les scientifiques, ils ont vu sur les réseaux sociaux que la tendance s'inversait, quoi. C'est-à-dire que les commentaires très négatifs à l'origine ont un peu laissé la place à des explications, des avis plus posés, plus réfléchis, on va dire. Donc à l'arrivée, il nous raconte que la vidéo d'un Fox avait été vue quasiment 3 millions de fois. Et leur démenti, si on prend en compte le communiqué, la vidéo qu'ils ont publiée et également les articles réalisés par les services de fact-checking des médias, donc comme on le fait à 20 minutes, ils avaient estimé qu'eux, leur démenti avait été vu 5 millions de fois. Voilà, on parle ils nous parlaient de véritables combats d'influence sur les réseaux sociaux.
D'accord, un vrai combat d'influence, et ça c'est qu'un exemple parmi des centaines et des centaines. Ce que votre enquête montre, c'est que les institutions scientifiques sont en première ligne depuis le début de la pandémie.
Le phénomène des fake news n'est pas nouveau, mais avec la crise, le côté anxiogène qu'il y a derrière, les questions que se posent les gens, fatalement, et on le sentait venir, c'est un pullulement de fausses informations qui chaque matin arrivent, circulent sur les réseaux sociaux, quoi.
Pourquoi ce combat contre les fake news, c'est si compliqué ?
Comme c'est le cas tout le temps avec les fake news, c'est qu'une fois que la fausse information est sortie et partagée et est devenue virale, vous avez beau démentir derrière, j'ai envie de dire que le mal est déjà fait, quoi. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, même si on démontre que voilà que la fausse information était fausse, eh bien voilà, elle avait eu le temps de circuler, de s'immiscer dans les esprits, et puis et il y a quand même probablement certainement plus de gens qui vont aller rapidement lire cette fake news que le démenti qui va derrière, avec toutes les preuves scientifiques qui peuvent être un peu lourdes à lire.
Est-ce que les scientifiques que tu as eus t'ont-ils dit pourquoi ces fausses infos, elles se propagent aussi vite ?
Ouais, Jean-François Chambon de l'Institut Pasteur nous expliquait que, je le cite, que ces thèses-là sont nourries par une sorte d'inconscient collectif piloté par la peur et la défiance. Et voilà, si le phénomène se diffuse aussi vite, c'est parce qu'il répond à une demande sociale, à une aspiration d'une partie de la population, d'où l'importance de la réponse des scientifiques derrière. Il y a aussi quelque chose de très important, cet exemple-là de Pasteur, c'est la différence d'échelle de temps. Entre voilà, la viralité d'une info qui va circuler, les gens veulent, dans cette période de pandémie, les gens veulent tout savoir tout de suite, avoir des réponses, ce qui se comprend au fond, mais c'est totalement à l'opposé de l'échelle du temps de la recherche scientifique, qui elle a besoin de semaines, de mois, d'années pour préparer des études. Et donc c'est en cela que les scientifiques, eux, se sentent un peu démunis, parce qu'on ne parle pas du tout de la même échelle temporelle, et ça c'est très compliqué pour eux à gérer.
Tu parlais de réponse du monde scientifique, mais quelle réponse concrètement ?
Jean-François Chambon expliquait qu'en tant que scientifique, on ne peut pas ne pas répondre. Depuis de nombreuses années, la distance entre le grand public et la science ne cesse de se creuser. Et en ne répondant pas, ou en prenant un ton un peu hautain, en disant voilà, c'est un public d'ignorants, ça place les scientifiques dans une position de sachant, de supériorité morale, ça, c'est ce qu'ils nous disaient, et ça c'est très mal perçu par le grand public aujourd'hui, et ça c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, il faut au contraire leur apporter des réponses claires, vulgarisées. Ouais, il y a toujours ce terme de vulgarisation qui revient, et puis voilà, le faire avec modestie et professionnalisme, quoi.
Mathilde, toi, tu t'es concentrée sur les réponses des institutions culturelles face aux fausses informations. Et alors, comment ça se traduit, cette réponse du monde scientifique ?
En plus de l'Institut Pasteur, nous avons aussi interrogé le CNRS et l'INSERM, qui sont deux grandes institutions de recherche en France. Et ces institutions de recherche aussi, elles ont des vitrines, elles ont des sites internet sur lesquels elles communiquent. Et elles ont vraiment beaucoup travaillé ces sites ces derniers temps. Alors, au CNRS, pour répondre à la crise du Covid-19 et aux besoins de connaissances autour de cette crise, alors ils ont fait plusieurs actions. Ils ont travaillé leur journal sur lequel ils communiquaient déjà avant la crise, mais ils ont aussi lancé une série de podcasts avec des chercheurs du CNRS pour répondre à plein d'aspects sur la crise. Et à l'INSERM, ils ont publié de nombreuses informations et des rebonds sur des questions d'actualité autour du Covid-19, avec bien sûr des éclairages de chercheurs de l'INSERM. Ces paris, ces enjeux de communication sont gagnants. Hein. Sur le site du CNRS, les visites mensuelles sont passées par exemple de 338 000 en mars à 600 000 fin avril. Et l'INSERM a également constaté une hausse assez importante de ses visiteurs sur son site.
Question, je reviens aux Infox. Est-ce que c'est aux institutions scientifiques elles-mêmes, l'INSERM, le CNRS, l'Institut Pasteur, de répondre aux Infox ?
Nous avons posé la question à Michael Chambrou, qui est chercheur sur la communication scientifique à l'Université de Grenoble-Alpes. Pour lui, dès lors que la science façonne la société, on peut tout à fait considérer qu'elle doit communiquer avec la société sur les résultats qu'elle va produire. Pour lui, les institutions ne peuvent pas faire l'économie de ce travail de vulgarisation, de médiation scientifique, qui passe notamment, mais bien sûr pas seulement, par cet exposé des résultats sur les sites vitrines du CNRS ou de l'INSERM.
Donc les institutions ne peuvent pas faire l'économie de ce travail de vulgarisation, de médiation. Pourquoi ?
Ce que souligne Michael Chambru, c'est qu'aujourd'hui, et là je le cite, hein, la méthode scientifique ne dispose plus aujourd'hui d'une autorité qui permet d'établir la vérité, le vrai, si tant est qu'elle en est toujours disposée d'ailleurs, ajoute-t-il. Pour lui, les institutions scientifiques ne sont pas isolées de la société. En fait, elles en font partie et elles sont prises dans les tensions de la société pour expliquer le monde tel qu'il est. Et il souligne que les sciences sont en concurrence avec d'autres lignes de lecture. C'est ce que l'on voit par exemple avec les infox qui viennent parfois jusqu'à bousculer ces institutions dans leur légitimité scientifique.
En conclusion, le résultat de votre enquête à quatre mains, quelle serait-elle ?
Mais on voit que les infox en fait, demandent un travail de réactivité de la part des équipes de communication de ces instituts et aussi derrière donc, des chercheurs qui les composent. Ça demande une forte réactivité qui n'est pas forcément le temps de la recherche, puisque le temps des réseaux sociaux n'est pas le temps de la recherche, n'est pas non plus le temps politique, n'est pas non plus le temps journalistique. Donc cela leur demande une adaptation qui n'est pas forcément dans leur culture. Une infox sur un réseau social peut monter en 24-48 heures. Et ce temps-là, ce n'est pas le temps de la recherche qui est beaucoup plus long. Cela leur demande donc aux équipes de communication et aux équipes de chercheurs un travail d'adaptation. Et c'est ce qu'ils font en ce moment pour répondre presque en temps réel à ces infox et derrière ces infox à ce besoin de lecture et ce besoin de traduction du monde tel que nous vivons.
Merci aux journalistes Aymeric Le Gall, Mathilde Cousin pour leurs explications. Quant à Minute Papillon, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast d'actu disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, merci de vos commentaires. On les lit sans parcimonie. On se retrouve très vite. Portez-vous bien.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.